rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bienvenue à tous les amateurs de culture. Noël, c'est le temps des retrouvailles, des moments partagés, la période des cadeaux, des repas gargantuesques et des discussions interminables en famille. On se retrouve souvent coincé entre la dinde et le plateau de fromage à écouter les anecdotes des uns et des autres. Mais avouez, il y a bien un petit moment pour se plonger dans un bon livre ou un bon film, non ? Alors aujourd'hui, notre équipe de chroniqueurs, Aurore, Amy, Willy et moi-même, vous propose un menu riche en saveurs, avec un film de Noël qui vous réchauffera le cœur, des romans qui vous transporteront ailleurs, un jeu qui réveillera vos neurones. On vous propose de découvrir des histoires qui nourrissent l'esprit, des personnages qui nous touchent et des réflexions qui nous font grandir. Alors prenez une pause, loin de la frénésie des fêtes, et laissez-vous porter par la magie des mots. Imaginez, ressentez, laissez-vous transporter par la beauté de la littérature et du cinéma, car on vous promet un voyage aussi gourmand que réconfortant. Ou palpitant, comme avec le thriller « Duel » de Franck Leduc, dépaysant avec « Au soir d'Alexandrie » d'Alaa El Aswani, puis la trilogie de Corfou de Gérald Durel, et aussi édifiant avec « Nobel des massacreurs » de Claudine Desmarteaux. Côté film, des titres de saison, avec « Une année polaire » de Samuel Collardet et « Noël joyeux » de Clément Michel. Et enfin, un jeu très sympa et convivial, « Maudit, maudit ». Et on va commencer avec du suspense, grâce à Aurore.
Eh bien, oui, je vais vous présenter donc « Duel », qui est le quatrième roman de Franck Leduc. Alors, d'une taille moins impressionnante que ses deux premiers, moins de 400 pages contre près de 800 pour les autres. Cela dit, même si je ne suis pas fan de polar ou de thriller, je dois bien l'avouer, chez Franck Leduc, ce n'est pas le nombre de pages qui me dérange. C'est toujours un auteur que je dévore, tout simplement. Un auteur qui a aussi participé à plusieurs recueils de nouvelles. Je le dis parce que ça aura peut-être une incidence plus tard. Je fais aussi moi du suspense des fois. En tout cas, Duel rompt avec la mécanique de ses deux premiers livres. Comme le souligne le titre, nous avons droit à un affrontement entre deux personnages principaux. Talia Sorel, qui est bien bardée de diplômes, mais malheureusement, ce n'est qu'une nouvelle recrue dans le raid français. Donc elle a peu d'expérience sur le terrain. Peu, pas du tout, mais peu. Forcément, du coup, quand le preneur d'otages demande à ne parler qu'à elle, eh bien ça fait des vagues et la police s'interroge. Surtout que l'affaire concernée fait du bruit. Voilà plusieurs jours que deux cars scolaires ont mystérieusement disparu avec les 66 enfants qu'ils emmenaient en classe de neige. Alors s'attaquer à un enfant dans la moralité collective, c'est toujours grave, lâche, odieux. Mais alors à 66 enfants, voilà, la France est complètement retournée par cette affaire, autant vous le dire. Talia Sorel aura-t-elle les épaules, les armes, face à un drame de cette ampleur, face à un malade de cette envergure? Eh bien, le roman, qui est narré à la troisième personne, est quand même construit à deux voix. On a le point de vue de Talia, nous rentrons dans ses pensées, ses réflexions concernant le preneur d'otages, sa famille, la vision qu'ont d'elle ses collègues. C'est une femme intelligente, indépendante, une maman qui tente par tout moyen de préserver son cocon familial loin des ennuis de son travail. Mais doucement, une autre voix la coupe et nous apprenons à connaître ce preneur d'otages. Nous connaissons son tempérament, ses proches, les opportunités qui l'ont amené à cette folie et aussi ses espérances par ce geste. Franck Leduc nous révèle même son vrai nom que Talia ignore. Nous nous rapprochons de cet homme à la fois par sa vie qui nous est contée et par les jugements que Talia émet à son sujet au fil de l'affaire. Son profil s'éclaircit de page en page, son piège semble bien ficelé, mais Talia est perspicace. La question c'est, à quel point l'est-elle ? À chaque page qui se tourne, il devient de plus en plus impossible, en tout cas pour moi, à lâcher ce roman. Autour de deux gravitent bien sûr d'autres personnages, et chacun est reconnaissable, unique, et leur enchevêtrement avec les protagonistes de ce duel se fait à une allure propre. On est tout de suite lancé dans cette intrigue policière autant qu'on peut prendre le temps de rentrer dans l'histoire de chacun. C'est une plume aussi délicate qu'intense, et ce rythme haletant nous emmène jusqu'à la fin, surprenante et maligne. On reconnaît bien là l'auteur de nouvelles. Son roman est construit pour nous emmener vers cette chute que nous ne voyons pas venir, mais qui suit une logique implacable. Comme les enfants qui devaient partir en classe de neige, eh bien je trouve que c'est la bonne saison pour lire ce roman. Au chaud, sous un plaid, fabriquez-vous une ambiance cosy pour rentrer dans la tête de ces deux personnages et déguster ce duel avec un chocolat chaud au marshmallow à la main. Enfin, voilà, dis-moi ce que j'en dis.
On arrête. Alors, changement d'ambiance, bah avec moi, on va aller en Égypte, avec Ossuar d'Alexandrie, d'Alaa El Aswani. C'est un écrivain donc égyptien que l'on connaît pour son génial L'immeuble Yacoubian, paru en 2002. Avec ce nouveau roman, il nous plonge en 1964 dans l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, autour d'un groupe d'amis qui se réunit le soir dans le bar d'un restaurant, boire un verre et discuter. Refaire le monde, comme on dit aujourd'hui. On va suivre chacun des personnages, aux situations et aux métiers très différents. On a un peintre, qui est aussi le narrateur, personnage central, mais il laisse la part belle à ses amis. Sa compagne, Lida, restauratrice. On a aussi Chantal, libraire française, Abès, avocat, et Tony, qui dirige une usine de chocolat florissante. Chacun est attachant, vivant, et pourrait à lui seul être le héros d'un roman. C'est que l'auteur a un talent incroyable pour esquisser ses portraits d'une grande justesse, en quelques phrases bien calibrées. De fait, c'est un roman choral, riche mais très fluide, avec des moments de joie, de réussite, mais qui tendent vers la tragédie, car ils sont chacun confrontés à la violence de la réalité politique de leur pays, pris dans une tourmente qui les dépasse. Ils vivent dans une atmosphère empoisonnée, un climat social lourd, au cœur d'un régime dictatorial où la volonté du pouvoir fait loi. Elle fait de vous ce qu'elle veut, quand elle veut, sans que vous ayez le droit de vous opposer. Et nos personnages sont lucides et réfléchis, ils ne s'opposent pas directement au gouvernement, mais ils subissent ce régime arbitraire et sa toute-puissance. Ils ont la nostalgie de la fin d'une époque, l'Alexandrie dans toute sa splendeur, cosmopolite et riche, ouverte au croisement de l'Europe et de l'Orient. Mais les Français ont été expulsés après la crise du canal de Suez. D'ailleurs, le personnage de la libraire française a été épargné. Bah pourquoi ? Parce qu'elle donnait des cours de français au fils d'un général. C'est tout dire. Et les officiers imposent progressivement la culture arabe et la création artistique est menacée par l'étroitesse d'esprit du régime, complètement paranoïaque. Tout prétexte est bon pour les accuser d'offense au régime. Le récit prend en gravité au fil des pages, fait surgir une tension de thriller politique et tient en haleine. L'écrivain est exilé aujourd'hui aux États-Unis. Il avait dû fuir la dictature et la censure à la parution de son précédent livre « J'ai couru vers le Nil ». Sous couvert de romanesque, il révèle les failles d'une logique absurde et injuste. Il n'écrit pas la dictature, il ne développe pas une analyse politique, mais il montre d'une manière admirable son influence sur les gens, les destinées. C'est une fresque humaine et sociale très attachante.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
On va aller à Corfou maintenant, grâce à Willy.
Voilà, bah écoutez, je vous propose de continuer à voyager sur les traces de la famille Durell, famille britannique qui est partie à Corfou dans les années 30. Alors aujourd'hui, bon, quand on parle de Corfou, évidemment, dans l'imaginaire universel, l'inconscient collectif, hein, c'est le rêve, c'est une île de rêve, etc. Ce que n'était peut-être pas tout à fait dans les années 30. Moi, je me rappelle toujours cette chanson de Julio Iglesias que ma mère écoutait très souvent. Vous savez, je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, mais tu n'étais pas assez riche pour t'emmener où ? Bah, à Corfou, bien évidemment. Donc... Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour présenter déjà un petit peu l'arrière-plan. Donc on est en août 35, l'été tire à sa fin et la tribu de Durell n'est pas très en forme, elle est plutôt d'humeur morose. Elle est en Angleterre, la météo est grise, froide, venteuse, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Et le frère aîné, Larry, suggère à sa mère de partir en Grèce. Alors la mère lui répond tout de suite fermement, écoute, c'est ridicule mon chéri, absolument hors de question. Évidemment, quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est parti. Les voici tous les cinq, on va revenir sur les différentes composantes de cette famille, vers le sud de l'Europe, la maison est vendue. Et donc le Benjamin de la famille, qui est donc Gérald Durell, qui est l'auteur de la trilogie de Corfou, on va y revenir, lui part avec l'essentiel, enfin ce qui lui paraît être l'essentiel, c'est-à-dire 4 livres d'histoire naturelle, un filet à papillons, son fidèle Roger, qui est le chien de la famille. Alors lui, Roger, il est extraordinaire, il est flegmatique comme toute Britannique se doit de l'être. Il assiste aux aventures de son propriétaire, enfin c'est extraordinaire. Et puis il emporte un pot de confiture qui contient quelques chenilles sur le point de se transformer en chrysalide. Et donc, plus qu'un voyage d'été, c'est vraiment une véritable expatriation que cette famille va se décider. Ils vont rester 4 ans à Corfou, de 35 à 1939. C'est la Seconde Guerre mondiale qui va les en chasser, malheureusement, parce que les Italiens vont occuper, enfin les forces de l'Axe, ce sera déjà les Italiens qui vont occuper l'île, et ensuite les Allemands. Et là, bah, ils vont jouir d'une liberté et d'une douceur de vivre, à nul autre pareil, jusqu'à ce fameux déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'auteur de cette trilogie, alors j'en rappelle le titre, c'est « Ma famille et autres animaux »,« Oiseaux, bêtes et grandes personnes » et « Le jardin des dieux ». Alors ce sont des livres qui ne sont pas tout à fait récents, mais j'ai voulu les évoquer parce que je sais qu'on les a acquis récemment à la bibliothèque.
Donc, ça a été réédité en fait, une édition toute moderne, donc la trilogie rassemblée en un seul
volume. Exactement, mais ça c'est vraiment, pour moi, ce sont des livres de chevet, mais pour les Anglais, vous leur parlez de Gérald de Rohl, pour eux, ça leur parle très facilement. Peut-être un peu moins pour nous, parce que Gérald de Rohl, c'était quelqu'un qui était très connu en Angleterre. Il a fondé le zoo de Jersey en 57, et puis c'était vraiment un amoureux des animaux, bon, on va le voir par l'intermédiaire de la trilogie. Et il était très connu des Britanniques parce qu'il faisait énormément d'émissions de télévision où il présentait Défenseurs de la nature, etc. Enfin, c'est une sorte de commandant Cousteau, vous voyez, mais bon, sans tout le matériel de Cousteau, quoi, en fait. Mais éternel défenseur des écologistes, etc., bien avant l'heure. Et donc, il a 10 ans quand débute cette aventure de la trilogie de Corfou. Et donc, c'est une sorte d'autobiographie, on va dire, zoologique, n'hésitons pas. Et donc, il s'intéresse à toutes sortes d'animaux, voilà, petits et grands. Il parcourt l'île en toute liberté, etc. Et puis, bon, tout ça est prétexte à faire des portraits extrêmement drôles de toute la famille et puis de tout ce qui l'entoure. Alors, il y a une domestique, par exemple. Alors, les gens vont peut-être trouver bizarre certains détails de ce livre, parce que ça ne correspond pas du tout à la série télévisée qui en a été tirée. Souvent, là, on a une série très célèbre qui a été faite en 2019, The Durrells. Enfin, c'est communément la manière dont on l'appelle. Mais souvent, ça diffère beaucoup du livre. Ils ont rajouté des éléments, ils en ont retiré. Et donc, c'est intéressant d'ailleurs souvent de comparer les livres et puis de voir les adaptations télévisées ou faire le contraire. Parce qu'on s'aperçoit que souvent, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Mais on retrouve quand même l'essentiel. Par exemple, la domestique corfiote, bon, bah, c'est l'hypochondriaque obsessionnelle. Elle est toujours persuadée de maintenant. C'est exactement la même chose dans la série. Les animaux improbables dans la maison, c'est pareil, c'est exactement pareil dans la série. On ramène un hibou, des pélicans, des scorpions, etc. Le vieux de mer libidineux qui drague en quelque sorte la mère de famille, c'est pareil. Le capitaine Creech, extraordinaire, il est là. Les précepteurs, tous plus fous, loufoques que les zingues, ils sont là. Et puis la sœur Margot, évidemment, qui, dans cette scène d'anthologie, enfin, je pense que c'est le meilleur moment du livre. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle lui prend de faire? Donc, on balade la relique de Saint-Spyridon, parce qu'évidemment, Corfou, à l'époque, c'est extrêmement catholique, etc. Ils sont très pieux. Et on promène la relique de Saint-Spyridon à travers la ville, jusqu'au moment où il faut aller baiser les pieds de la statue de Saint-Spyridon, enfin, de sa relique. Donc c'est une espèce de cadavre momifié, vous voyez. C'est à peu près ça. Mais évidemment, les gens font semblant d'embrasser ses pieds. Or, Margot, elle y va goulûment, elle embrasse goulûment les pieds du truc. Évidemment, elle tombe effroyablement malade par la suite. Donc voilà, c'est toute une série d'aventures plus drôles les unes que les autres. Alors, peut-être c'est le livre le plus faible, à mon sens, c'est le troisième. Mais globalement, on y trouve son plaisir à lire. Voilà.
Merci beaucoup.
Dire, en gros.
Moi, je vais passer à un autre livre de littérature française, cette fois. Le Nobel des massacreurs, de Claudine Desmarteaux. C'est un roman surprenant et instructif, puisqu'il nous parle de la psychochirurgie et des débuts de la lobotomie et des médecins qui l'ont expérimenté. Mais comme nous ne sommes pas dans un essai, mais bien un roman, nous suivons un personnage fictif, Janet Moore. C'est une jeune femme de Boston qui vit dans les années 40, auprès d'une mère dépressive, un père tyrannique et glacial, méprisant avec son frère qu'elle adore. Inspirée par Nellie Bly, une globe-trotteuse pionnière du journalisme d'investigation, qui s'était infiltrée plusieurs semaines dans une usine et un asile, elle aspire à devenir journaliste et quitte sa famille pour aller tenter sa chance à New York. Elle va découvrir le machisme omniprésent dans cette profession. Elle le racontera dans sa correspondance épistolaire avec son frère, où chacun parle de ses difficultés à s'affranchir, dans des écrits parsemés de lyrisme, son frère étant féru de poésie. Et grâce à sa détermination et son audace, elle parvient à se faire embaucher dans un grand journal pour lequel elle va enquêter sur la neurochirurgie et rencontrer Walter Freeman, père de la lobotomie comme traitement des maladies mentales et précurseur d'une intervention simplifiée, la lobotomie préfrontale par transorbitation, avec, écoutez bien, un pic à glace. Une technique qui consistait à couper les nerfs qui transmettent les émotions en passant sous la paupière. Il pouvait opérer ainsi sans anesthésie, sans blouse ni gants, et pratiquer à la chaîne et diffuser cette méthode dans tout le pays. L'héroïne part aussi à Lisbonne interviewer Egas Moniz, contributeur des premières opérations du cerveau, qui a été récompensé par le prix Nobel en 1949. Et celui-ci lui fait des révélations accablantes à son insu. Car si elle est d'abord impressionnée par les résultats, elle rédige des papiers favorables, mais elle va vite déchanter lorsqu'elle découvre progressivement les ratés de cette technique et surtout la négligence sur des points éthiques fondamentaux, comme la question du consentement du patient, qui est complètement occultée par les praticiens, d'autant plus que les patients concernés sont souvent soit des femmes, donc c'est le mari qui décide, soit des enfants, donc c'est encore le père de famille qui prend la décision d'opérer, et une ou même plusieurs fois au cas où la femme ou l'enfant ne se montrerait pas encore assez docile. Et beaucoup d'homosexuels aussi étaient opérés pour les corriger de leur tare, sous la pression familiale. La fin du livre révélera que plus de 100 000 personnes ont été lobotomisées dans le monde entre 1945 et 1955, jusqu'à l'avènement des premiers neuroleptiques, qui provoquent une révolution médicale et contribueront à l'abandon progressif des chirurgies invasives. On apprend beaucoup sur le traitement de la santé mentale, dans ce roman corrosif et décapant, qui fait réfléchir, tout en étant très agréable à lire grâce à son héroïne féministe et fougueuse et son écriture très vive. Bon, après cette lobotomie, on va passer à...
Ouais, j'avoue qu'entre la lobotomie et l'autre qui embrasse les pieds bizarres, là, il faut une pause. Là.
Voilà, un peu de musique alors. Et on va passer à notre sélection parmi les CD que nous venons de recevoir à la bibliothèque avec Kokomo, les Nantais qui ont déjà 10 ans de carrière pour Warren et Cavin. L'un des meilleurs groupes français du moment, je trouve, qui agite la scène musicale avec son rock électrisant. Le duo compte déjà à son actif 3 albums et ce 4e opus, Striped, nous renvoie comme ses précédents aux années 70 avec 12 chansons qui alternent les ambiances sombres et lumineuses, un mélange de force et de lyrisme pour ce rock vintage. On va écouter le premier single, Zebra, qui représente de manière symbolique le jeu de dupes entre les faibles et les puissants, le combat du zèbre traqué par les lions en troupeau. Un morceau qui dégage une énergie et des vibrations aussi folles que communicatives. cinéma maintenant. On va d'abord parler d'un film très tendre, très joli, Une année polaire de Samuel Collardet avec Amy.
Alors, donc c'est un film qui date un petit peu, bon, qui est de 2017, mais c'est un film qui a fait partie de mes films, on va dire, coup de cœur, marquant justement de cette saison. Et c'est entre un documentaire et une fiction. Et c'est un film qui nous invite véritablement au voyage. C'est un récit d'apprentissage d'un jeune professeur danois qui tente de s'intégrer à la petite communauté inuit de 80 habitants. Dont il est instituteur, il est instituteur au Groenland dans un village donc qui s'appelle Tinitkilak. Et là ici, c'est véritablement un hommage à une région qui est plutôt âpre et à une des dernières zones sauvages encore préservées. Et une des autres particularités de ce film, c'est que le chemin emprunté par le professeur Anders, c'est-à-dire s'imprégner avec humilité de la culture locale, tenter de se faire une place parmi ses membres, c'est le même cheminement qu'avait dû emprunter le réalisateur bien avant donc, d'avoir l'idée de ce film. Et le film est non seulement tourné principalement avec des noms professionnels, mais est aussi tiré d'un fait réel, justement par rapport à l'expérience du réalisateur. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que ce film soit comme un récit d'apprentissage, d'aventure, permettant véritablement à la fois aux héros du récit et à nous-mêmes de découvrir de nouvelles contrées, d'explorer les pratiques culturelles inuites et en garder aussi une trace pour les générations futures. C'est un film qui cherche aussi à attirer l'attention sur les enjeux inuits, mais qui sont aussi en partie les nôtres, puisqu'ils évoquent aussi les enjeux climatiques. Et pour explorer encore plus la communauté inuite, que j'ai pu aussi découvrir plus profondément grâce à ce film, je vous conseille aussi en parallèle, à la fois le documentaire papier, cette fois intitulé « L'art inuit » de Michel Butor, ou encore pour les plus jeunes, le conte « Apoutsiak, le petit flocon de neige » aux éditions du Père Castor. Et vous pourrez retrouver ce film sur la plateforme Arte VOD en partenariat avec la médiathèque départementale de l'Oise sous un bon plaid. Alors ça, c'est important parce que si vous regardez le film sans un plaid, vous risquez de vous transformer en glaçon, je pense, avant la fin du film, clairement.
Ou lors de DVD à la bibliothèque aussi.
Aussi.
Ouais. Et j'ai le souvenir qu'il mettait aussi en valeur la problématique que le Danemark voulait imposer aux Inuits leur culture. Voilà. Et les Inuits, du coup, prennent vraiment cet instituteur danois comme un envahisseur. Il y avait cet aspect-là aussi, non ?
Oui, c'est pour ça, justement, toute la problématique de comment, justement, s'intégrer avec humilité, parvenir à leur rencontre, finalement. C'est pour ça, c'est pour moi, enfin, je te rejoins effectivement aussi, c'est sur le fait que ça soit une rencontre humaine. Donc, il y a cette notion, effectivement, qui est très poétique et très... très importante dans le film, qu'a bien sûr justement retranscrit aussi le réalisateur.
Oui, c'est un très beau film. Alors maintenant, on va plutôt passer à une comédie, Noël joyeux, de Clément Michel.
Alors là, donc on part effectivement plus du côté de la cheminée, disons. On se réunit en fait plus autour de la cheminée.
Il n'y a plus de plaid là ?
Aussi quand même, ça peut se rajouter quand même. C'est une comédie française... qui est plutôt intergénérationnel hein, quand même, et de circonstances, avec Franck Dubosc en tant que bon samaritain et chef d'orchestre de ce réveillon improvisé. Alors il aspire à une fête de Noël chaleureuse, d'autant plus que ses enfants et ses petits-enfants ont décidé de lui faire fond bon pour le réveillon. Et pas qu'à lui, puisqu'il y a aussi son épouse aussi qui s'est retrouvée, ils se retrouvent tous les deux en fait seuls au réveillon. Et c'est là qu'entrent en jeu ces deux invités, incarnés par Daniel Lebrun et Daniel Fichot, donc qui sont deux sympathiques mamies en maison de retraite, mais qui vont animer à leur façon le réveillon, et pas qu'un peu. Disons que, pour faire court, c'est si vous avez l'image des deux tati Daniel, ça vous donne un petit peu un aperçu de leur personnalité dans le film. Et j'ai une mention spéciale pour ce film, parce que le film conducteur... c'est véritablement autour de la question et si on partageait le réveillon avec une voire deux personnes délaissées qu'on irait chercher dans une maison de retraite. Alors l'idée elle est généreuse et le film prend vraiment le parti de mettre en valeur nos aînés. le fait de ne pas les oublier autour de la table du réveillon et les notions de partage et de réconciliation. Et ça, vraiment, c'est pour ça que ça fait... C'est un film qui peut paraître être une comédie un petit peu voilà, en décalage, mais qui pose vraiment des questions existentielles et qui, en tout cas, m'a particulièrement touchée. Et on a aussi des moments drôles à mourir de rire, alors sans spoiler, comme disent les Anglais. Alors, on a le choix cornélien du sapin ou encore le Secret Santa. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en fait avec des questions un peu existentielles. Bon, quel cadeau vais-je pouvoir offrir suivant voilà, la personne, la personnalité. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là.
Dans le Secret Santa, tout dépend si on sait à qui on adresse voilà. Le petit cadeau ou si on ne le sait pas, en fait.
Parce voilà, que exactement.
Si on pioche au hasard ou si on fait juste un petit cadeau à quelqu'un, mais on sait à qui. Et là, du coup, tout prend un sens différent. Quoi.
Voilà, avec les bonnes et les mauvaises surprises, effectivement, qui accompagnent le Secret Santa. Je parle en expert, en connaissance de cause. Et effectivement, alors, on a en particulier la séquence émotion du dernier quart d'heure du film qui m'a totalement cueillie, là, véritablement. Et donc également, vous pouvez retrouver ce film aussi sur la plateforme RTVOD. En partenariat avec la MDO, avec une excellente boisson chaude à la main. Donc là, par contre, plus le plaid voilà, de juste avant.
Super, Amy. Écoute, moi, je vais continuer dans la même lignée. Alors, on n'est pas sur un film, on va être sur un jeu de société. Mais effectivement, comme disait Anne en introduction, les fêtes de fin d'année, c'est beaucoup... on se retrouve en famille, on écoute les anecdotes des uns des autres. Puis parfois, on se retrouve autour d'un petit jeu de société. Et moi, je vous propose Maudit Maudit, qui est un jeu à partir de 3 personnes. Et sur la boîte, ils disent 12 ans ou plus, mais pour l'avoir testé avec des enfants à partir de 9 ans, ça marche déjà très bien. Donc voilà, je dirais plutôt que c'est un jeu familial qui s'inscrit un peu dans la lignée du tabou pour les plus anciens d'entre nous qui connaissent. Donc, quoi de mieux que de vous faire jouer pour que vous découvriez un petit peu comment ça se passe. Vous ne connaissez pas les règles, mais c'est très simple. Je vais vous donner un indice qui tient en un seul mot. Et en échange, vous allez me proposer, vous aussi, un seul mot qui vous fait penser à cet indice-là. Donc, si je vous dis tartiflette.
Fromage.
Willy.
Oui.
Tartiflette, ça t'évoque rien.
Raclette.
Hiver.
Ok, donc merci. Donc la bonne réponse a été donnée, mais t'as triché parce que t'as donné 2 mots. Anne. Mais oui, la bonne réponse c'était raclette. L'idée c'est de faire des associations d'idées. Donc fromage c'était bien, hiver en vrai ça pourrait marcher. Mais peut-être que pour faire deviner hiver, j'aurais peut-être dit neige, tu vois, j'en sais rien. Enfin, mais c'est marrant, tartiflette, hiver, oui. En tout cas, ce mot, je vais vous le faire deviner en un seul indice. Donc, on va considérer que tu l'avais dit tout de suite, Anne. Donc, je t'aurais donné 1 point. Et moi, je prends 1 point parce que je devais te le faire deviner en 1 et j'ai réussi à faire deviner en 1. Willy et Amy, je suis désolée, vous n'avez pas de points pour le moment.
Un plan d'esprit.
Attention, autre mot, ça tombe bien puisque comme j'ai réussi à faire deviner le premier à Anne, normalement je garde la boîte et j'ai le droit de vous en faire deviner un autre. Sinon, normalement, j'aurais dû faire tourner la boîte avec les mots. Alors du coup, deuxième mot, si je vous dis mer.
Un indice aussi ?
Du coup, je vous donne qu'un indice pour l'instant.
Plage.
Alors, eau pour Amy, plage pour Anne.
Soleil.
Eh bien, c'était plage. On voit qu'on a une connaisseuse. Mais du coup, je ne suis pas très contente parce que moi, je devais vous le faire deviner en 2. Et du coup, elle m'a sapé mon truc. Donc, je n'ai pas de points. Mais Anne, tu gagnes un deuxième point. Bravo. Allez, on en fait un petit dernier juste pour le fun. Même si là, du coup, normalement, je suis vraiment obligée de passer la boîte. Hein, même si je m'y accroche. Si je vous dis Monet.
Pièce.
Peintre.
Argent.
Ok. Je vous donne un deuxième indice qui est étranger.
Devise.
Oui, c'est ce que j'aurais dit, moi, devise.
Okay. Amy. Monde, c'est ça que tu as dit ? Ok. Et un troisième indice, États-Unis.
Dollar.
Et ça tombe bien parce que je devais le faire deviner en 3 indices. Donc voilà, parfait. Promis, pour les auditeurs, c'était pas répété d'avance. Hein. Donc mon score, j'ai 2 points. J'ai réussi à faire deviner raclette et dollar. Et Anne, tu as 3 points. Désolée pour les novices, du coup. Merci d'avoir participé.
On n'avait pas le plaid ni le chocolat chaud.
Non, c'est vrai, il manquait le plaid et le chocolat chaud. J'avoue. Alors, en fait, du coup, vous l'avez remarqué, pour chaque mot que je vous ai fait deviner, il fallait un nombre d'indices maximal, et ce nombre est indiqué en fait dans le sabot. La boîte, c'est le sabot, et il y a deux parties, et parce que les cartes ont deux faces. Donc il y a une face avec les mots, et les mots sont accompagnés de petits symboles. Et puis il y a une autre face, dans l'autre partie du sabot, où il y a deux symboles avec un petit chiffre. Et grosso modo, ben, ces deux symboles-là me disent quels sont les deux mots que je peux choisir dans la pile d'à côté. Et me donne le chiffre me donne le nombre d'indices maximal. Si je choisis ce mot, par exemple, si je dois choisir entre plage et raclette, ben en fait, je sais que raclette, il faut que je le fasse deviner en 1, alors que pour plage, je dois le faire deviner en 2. Donc, du coup, c'est à moi de choisir lequel je vais faire deviner, sachant que si je veux le faire deviner comme plage, je dois le faire deviner en deux, mais qu'on trouve la réponse tout de suite, comme Anne a fait, ben, du coup, moi, je suis obligée de passer la boîte et je ne gagne pas de points. Donc, voilà, il y a quand même un petit facteur de décision à prendre en compte pour savoir quel mot on va faire deviner. L'avantage de ce jeu, quand même, c'est qu'on peut s'arrêter quand on veut. On peut se dire le premier arrivé à 5 points, ou dès qu'on a fini le sabot entier, on arrête, ou après 3 tours de table, on arrête. Bon, pour éviter les querelles inutiles, je vous conseille quand même de vous mettre d'accord dès le début, parce que c'est pas quand j'aurai 5 points et les autres 0 qu'il faudrait que je dise bon, ben on arrête là, c'est bon. Attention aussi, si un mot deviné, vous l'aurez compris, vaut 1 point, que ce soit pour moi ou pour vous qui devinez, eh bien certaines fois, il y a des malus. Si quelqu'un trouve le mot et que moi je suis en position de la boîte, eh ben je peux distribuer un moins 1 à quelqu'un. Donc, pas forcément à celui qui a trouvé. D'ailleurs, j'aurais pu donner un moins 1 à Willy. Et voilà, tu aurais commencé en négatif cette partie. C'est pas très sympa. Hein. Mais voilà, on choisit qui on veut pour donner ce malus. Donc, je sais pas, quelqu'un qui réfléchirait trop longtemps ou qui aurait une tendance compulsive à vouloir loucher dans la boîte pour regarder de quel mot il s'agit. Ou quelqu'un qui aurait tout simplement mal fait le café ou le chocolat chaud. Voilà, prendre son malus parce que c'est voilà, délit de faciès. Diabolique, n'est-ce pas ? Eh bien, voilà, diabolique, tout comme ces petits chats qui illustrent les cartes et la boîte joliment enluminé de dorures. Mais voilà, à vous qui possédez la boîte pour un temps, ne vous croyez pas tout puissant non plus, parce que si les autres joueurs trouvent que votre indice n'avait aucun rapport ou bien trop lointain avec le mot à faire deviner, eh bien, ils peuvent vous distribuer la tuile malédiction. Et là, c'est moins 4 points qui s'abattent sur vous. Mouah ! Voilà, vous comprenez mieux maintenant pourquoi le jeu s'appelle Maudit, Maudit.
On peut jouer jusque combien à peu près ? On peut jouer nombreux.
Ouais, ou moins, je crois que c'est 6.
Ouais.
Mais bon, en vrai, il n'y a pas de limite. Après, on peut faire des équipes en fait aussi. Ouais. C'est pas...
En tout cas, c'est un jeu très sympa, très convivial.
On rigole bien.
Ouais. Eh bien, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup, Aurore, Amy et Willy. Les bibliothèques ne ferment pas, on ne ferme jamais. On fermera bien sûr les jours fériés, mais sinon les veilles de fête, donc le 24 et le 31, nous fermerons à 16h. Pour nos prochaines animations, le samedi 4 janvier à 17h, on a le nouveau Café Philo, la petite Socratique. La paix est-elle une utopie ? Une discussion et un débat philosophique animé par Marie-Danielle Soncourt. Le Belligeux reprendra le mardi 7 janvier à partir de 20h30 pour nos prochains rendez-vous culture à la bibliothèque. Et ben ce sera le samedi 25 janvier à 11h et notre émission de radio sur Graphite le vendredi 17 janvier à 17h. Et nous vous souhaitons à 18h, pardon. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.
Merci Anne. Bonne fête à tous.
Bonne fête à tous.
Merci.